Saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Voilà, vous avez pu vous confesser, vous voyez que vous en êtes ressorti vivant, vos consciences beaucoup plus légères. Je rappelle que le Seigneur vous a non seulement pardonné vos péchés, mais vous accorde également cette grâce de persévérance, eh bien pour ne pas retomber toujours dans les mêmes fautes, etc. Je vais vous lire l'évangile qu'on va entendre demain à la messe, parce que vous allez voir qu'il a un grand rapport avec cette journée que nous venons de vivre. Certains, vous allez voir, connaissent cette page d'évangile. Alors, de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient, c'est-à-dire ils râlent, contre lui, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il manque avec eux. Ça, c'est vrai qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Vous avez vu que vous avez tous été bien accueillis malgré le fait que vous aviez commis des péchés par le bon Dieu. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Est-ce que quelqu'un, en levant le doigt, peut nous dire ce qu'est l'héritage? Qu'est-ce que c'est que l'héritage, être un héritier? Oui.
Un héritier, c'est quelqu'un qui va reprendre, par exemple, les terres ou la maison de son père.
D'accord. Alors, reprendre, mieux que reprendre encore. Timéo.
En fait, il va recevoir les terres parce que, comme ça vient de son père, bah, c'est à lui.
D'accord, mais il n'y a pas qu'une histoire de terre. Oui.
Il veut sa part d'argent.
Alors, il veut sa part d'argent, oui.
Recevoir.
Alors, c'est recevoir. Chacun ici, vous êtes les enfants de vos parents, ça vous ne m'avez pas attendu pour le savoir, mais le jour où vos deux parents ont quitté la terre, vous êtes leurs héritiers. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont sur les comptes bancaires, la maison, les meubles, etc. Tout cela vous revient à vous qui êtes leurs enfants. Et il faut partager, si vous êtes trois, en trois, grosso modo. Et là, on a ce jeune, le plus jeune des fils, qui veut sa part d'héritage. Sous-entendu, j'en ai marre de vivre chez mon père, je ne vais pas attendre qu'il meure pour commencer à vivre, qu'il me donne ma part d'héritage et à moi la belle vie. C'est ça que veut faire ce fils. Donc le père, on nous dit, leur partagea ses biens. Puisqu'il a deux fils, il le partage en combien? Bon. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Qu'est-ce que veut dire le mot dilapider? Est-ce que vous avez des synonymes en tête, Madison? Ah ben vous levez le doigt juste pour lever le doigt. Karen.
Gaspiller,
c'est un bon synonyme. Quelqu'un avait un autre synonyme pour dilapider, gaspiller?
Dépenser pour rien.
Dépenser pour rien. Il y a une expression qui dit ça, jeter l'argent
par la fenêtre.
Par la fenêtre, ou par les fenêtres. Donc vous voyez que ce jeune homme, on nous dit, il va, donc il a d'abord hérité d'une fortune, il va la dépenser, on nous dit, en menant une vie de désordre. Qu'est-ce que cela veut dire, une vie de désordre, Madison?
C'est quand on met tout plein de bazar.
Bravo, ça c'est un très bon synonyme. Le désordre, c'est quand on met le bazar partout. Oui? Quoi d'autre? La vie de désordre.
Bah, il fait des choses pour rien. Il
achète quelque chose, mais en fait, qui n'est pas utile.
Voilà, il va donc dépenser son argent n'importe comment. Une vie désordonnée, c'est aussi une vie où il va faire un peu n'importe quoi. Et on va voir à la fin de la parabole que le frère aîné va savoir que pour faire n'importe quoi, c'est qu'il va aller dépenser son argent avec les filles, à faire le kéké, à faire le flambeur, à leur montrer qu'il est beau, qu'il est riche, etc. Donc il va tout dépenser en faisant la fête, grosso modo. Alors, reprenons donc notre histoire. Donc il est dans un pays lointain, il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Qu'est-ce que c'est que la famine ? Arthur, vous savez ce que c'est la famine ? Maëlle ? Oui ?
C'est quand ils ont très faim.
Alors, c'est quand on a faim. Oui, mais alors, vous voyez, quand j'ai faim, on peut dire à maman, mon estomac crie famine. Mais voilà, il n'y a plus à manger. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas. Il ne peut pas y avoir de quoi manger. C'est-à-dire qu'à l'époque, aujourd'hui c'est moins vrai, mais à l'époque, les magasins, le fait d'avoir du blé, tout dépendait pour une grande partie du climat. Si la saison était bonne, s'il y avait eu suffisamment de soleil, suffisamment de pluie, et que tout s'était bien alterné, il y avait de quoi manger. Mais quand vous commencez à avoir un été extrêmement chaud, où il n'y avait pas eu beaucoup d'eau, par exemple, eh bien, il commençait à y avoir la famine. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas acheter à manger. Ce n'est pas que vous n'avez pas d'argent, c'est qu'il n'y a rien à acheter à manger. Donc, dans ce pays lointain, lui qui avait beaucoup d'argent, maintenant, il se retrouve dans le besoin et il commence à avoir faim. C'est-à-dire qu'il est en train de mourir de faim. Vous savez que si on ne mange pas pendant longtemps, on meurt. Et si on ne boit pas, surtout, peut-être même avant même de manger. Donc lui est en train de faire l'expérience de la faim. Et c'est pour lui une expérience nouvelle, puisqu'il n'avait jamais fait cette expérience quand il était plus jeune. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, puisqu'il n'a plus beaucoup d'argent ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas d'argent ?
On doit trouver un travail.
On doit trouver un travail, voilà une bonne française. Il faut travailler. Effectivement, voilà comment continue la parabole. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Jésus, vous savez, il est de tradition juive. Et dans la tradition juive, le porc, c'est vraiment l'animal qu'on ne doit pas manger, c'est l'animal interdit. On ne mange pas de porc, de cochon chez les juifs. Alors du coup, quand un juif doit garder des porcs, vous imaginez pour lui la déchéance que cela représente. Aller garder l'animal interdit qu'on ne peut même pas manger. Donc il doit garder des porcs. Et voilà ce que Jésus nous raconte dans cette parabole. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Donc les gousses, c'est comme les glands qui tombent de l'arbre, hein, c'est ce que mangent les porcs. Il arrive même à envier les porcs qui, eux, ont de quoi manger alors que lui n'a rien. Et voilà une phrase importante, et c'est ce que nous avons fait ce matin pour nous préparer à la confession. Alors, il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Comment est-ce que vous expliquez cette expression « il rentra en lui-même » ?
Il réfléchit au plus profond de lui.
Voilà, il réfléchit au plus profond de lui. Qu'est-ce que les autres auraient envie de dire à ce sujet ?
Il fait un point de...
Un point, ça marche, oui, de ce qu'il a vécu. Comment on a appelé ça ce matin dans la feuille ? Oui. Enfin, c'est pas. Dites-nous ce que vous vouliez dire.
Un souvenir que j'ai.
Comment ça, non ? Un souvenir, ça marche ? Oui.
Un examen
de conscience. C'est de cela que nous avons parlé ce matin, quand j'ai parlé de Pinocchio et de Jiminy Cricket qui représentent la conscience dans Pinocchio.
Et Pinocchio.
Merci. Et du coup, vous voyez que rentrer en soi-même, c'est du coup donc faire le point, c'est interroger aussi sa conscience. Parce que parfois, notre conscience, elle nous flatte, parce qu'elle sait qu'on a fait le bien, mais parfois, elle nous accuse, parce qu'on s'est mal comporté. Et là, il rentre en lui-même et il est en train de se dire, lui qui râlait dans la maison de son père parce qu'il devait trouver qu'il n'était pas estimé à sa juste valeur, qu'il n'était peut-être pas le préféré, qu'on ne lui donnait pas assez d'argent, qu'il n'était pas assez considéré, il a préféré partir, il va dans le pays lointain et maintenant il se rend compte que finalement sa vie qui le faisait râler, ben, elle n'était pas finalement si mauvaise que ça. Jamais il n'avait connu la faim et maintenant il a vraiment faim puisqu'il dit je meurs de faim et qu'il en vient même ben, à trouver que les cochons ils ont une vie plus agréable que lui. Alors voilà ce qu'il décide après son examen de conscience et ce que nous avons fait après avoir reçu l'absolution. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Non seulement il a trouvé le premier travail pour garder les porcs, maintenant il se dit « Tant pis, je vais rentrer chez mon père. » Et comment est-ce que vous comprenez cette phrase « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mélodie, parlez fort et qu'on vous entende.
Je suis plus, quand on est plus honoré.
Ouais, quand on est plus honoré. Oui, quand il manque d'honneur, ce qui veut dire qu'est-ce qui s'est passé entre son père et lui ?
Il l'a quitté.
Alors il l'a quitté.
Il a péché.
Donc là, il a gravement péché, parce que vous voyez, on a insisté ce matin dans les commandements, le quatrième nous dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déshonoré sa famille aussi. En décidant de partir, il a coupé les ponts. Parce que quand on demande l'héritage, c'est sous-entendu « Maintenant, je fais comme si mon père était mort ». Parce que généralement, l'héritage, on ne l'a pas forcément du vivant, mais on l'a généralement à la mort. Donc là, lui, il a décidé de faire comme si son père était mort, il est parti dans un pays lointain, et il n'a pas donné signe de vie. Il a fait comme si son père était mort. Et donc il se dit, l'inverse est vrai, mon père, il doit faire comme si moi, son fils, également, j'étais mort. Comme si on n'était plus père et fils. Donc il se dit, je vais juste venir et lui demander si je peux trouver une place dans sa maison parmi les ouvriers. Pas parmi le fils, puisqu'il dit « Maintenant, j'ai vraiment blessé mon père à ce sujet. » Donc ça, c'est son projet dans sa tête. Rentrer chez lui et demander le travail de l'ouvrier. Il se leva et il s'en alla vers son père. Donc il quitte le pays lointain et il revient chez lui. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Écoutez bien petit à petit ce qu'on nous dit. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Comment est-ce qu'il arrive, d'après vous, le fils prodigue ? Est-ce qu'il arrive comme le publicain de l'Évangile aujourd'hui, avec la tête baissée, comme on l'a entendu dans l'Évangile, ou comme le pharisien, la tête haute ? D'après vous, comment et dans quelle attitude il arrive ? Comme, c'est-à-dire ?
Comme le pharisien.
Qu'est-ce que vous appelez le pharisien ? La tête haute ou la tête baissée ?
La tête haute.
Vous croyez qu'il arrive la tête haute ?
Non, la tête baissée.
La tête baissée, pourquoi ?
Parce qu'il n'a pas mangé.
Alors, d'abord parce qu'il n'a pas mangé, oui.
Parce qu'il est déçu de lui.
Parce qu'il est déçu de lui, parce qu'il a quoi ? Comment on appelle ce sentiment ?
Péché.
Alors, péché.
Il a trahi.
Trahison.
Triste.
Il regrette.
Il a désobéi.
Il a désobéi, oui.
Il a honte.
Merci. Il a honte, donc il n'arrive pas en grand vainqueur dans sa maison. Il arrive la tête baissée. Et on nous dit que le père, de loin, il l'aperçut. Est-ce qu'il arrive avec de beaux habits ?
Non.
Il arrive avec des habits sans doute très simples, ce qui lui reste, puisqu'il a eu tellement faim. Il a dû essayer de vendre tout ce qu'il pouvait pour essayer de survivre. Ça, qu'est-ce que ça nous dit du père ? Est-ce que vous pensez que le père, il connaissait le jour et l'heure où le fils allait revenir ?
Non.
Pensez qu'il lui a téléphoné ?
Non.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour le père ? Qu'est-ce que ça nous dit du père ? Oui ?
Il a senti que...
Alors il l'a senti, oui. Oui.
Il l'a vu.
Mais s'il l'a vu, vous pensez que c'est simplement un hasard ?
Non.
Non, c'est qu'il l'attendait.
Il l'attendait, ce qui veut dire, puisqu'il ne connaît ni le jour ni l'heure où ce fils allait rentrer à la maison, ça veut dire que régulièrement, le père, il était attentif à voir si un jour son fils allait revenir. Et il le reconnaît, même s'il n'arrive pas sur ses grands chevaux, parce qu'il l'a quitté quand même sur ses grands chevaux, donne-moi la part d'héritage, je vais enfin vivre autrement. Et là, il le voit, même tout courbé, il le reconnaît. Et est-ce que ce père est rancunier? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le père, s'il était rancunier? Imaginons qu'il faille réécrire la suite de l'histoire avec un père rancunier. Karen. Voilà, ne pas le revoir, il lui dirait de repartir. Or là, qu'est-ce ensuite? Oui. Ah oui.
Va travailler vers au cochon.
Voilà, retourne travailler chez les porcs, effectivement. Du coup, il mourrait parce qu'il meurt de faim. Il pourrait être très en colère et la porte de la maison serait comment?
Fermée à clé.
Fermée à clé, oui, pour ne pas qu'il revienne. Or, on nous dit, donc, il le voit de loin. Et qu'est-ce qu'il fait, le père, nous dit Jésus, immédiatement?
Il
le prend dans ses bras, mais est-ce qu'il attend qu'il soit devant la porte?
Non, il court.
Il court. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est pas le fils qui court, heureux de retrouver son père. Père, excusez-moi, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Non, c'est le père qui descend en courant et qui se jette dans les bras de son fils, qui le couvre de baisers. Ça veut nous dire quelque chose du cœur de Dieu. Dieu, il n'attend pas à la porte en disant, avec tous les péchés qu'il a fait, celui-là, talalilalala. Ça, c'est tellement humain. C'est tellement notre façon, peut-être, de réagir, du moins spontanément. Non, Dieu, dès qu'il sent qu'il y a en nous la contrition, on a vu ce que c'était, hein, regretter ses fautes, dès qu'il sent qu'il y a également la conversion, cette idée de retourner vers Dieu, eh bien, Dieu vient à notre rencontre et nous couvre de baisers. C'est de cela que Jésus veut parler. Il veut, dans cette parabole, nous faire comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, son Père. Donc, le Père courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers. Le Fils lui dit, Père, il avait prévu son projet. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le, mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Donc vous voyez que ce père est tellement heureux de retrouver son fils, qu'il n'écoute même pas ce que son fils a à lui dire. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Tout ça, le père le sait déjà dans son cœur, mais il lui fait immédiatement une fête. D'après vous, pourquoi il y a cette idée de mettre un anneau au doigt? Qu'est-ce que cela veut dire dans le symbole? Mettre un anneau au doigt. Milan. Alors, le mariage. Enfin, son père ne va pas se marier avec le fils. On vit dans une société de malades, mais quand même... On ne peut pas encore se marier avec ses enfants. Alors, une bague. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il donne une bague? C'est le symbole de quoi, la bague? De revenir? Oui? De l'honneur? Oui? Le riche? C'est surtout? Oui? Non, oui, enfin, de la vie, tout ça, d'accord. Mais c'est pour dire, en fait, qu'il revient vraiment dans la famille, ce fils. Il remet la bague du doigt de l'héritier. Donc, vous voyez, il rentre à nouveau dans cette famille et dans cette communion qui l'unit à son père. Et voilà qu'on commence à faire la fête parce que le cœur du père est tellement heureux. Qu'est-ce qu'il dit, le père? Mon enfant que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Est-ce que Maël ou Arthur peuvent nous expliquer ce que veut dire le mot conversion? On en a beaucoup parlé au catéchisme.
C'est facile.
Ah ben alors allez-y. Ou Karen?
Par exemple, c'est quand on convertit des minutes en heure.
Alors, convertir des minutes en heure. Donnez-nous un exemple. Voilà, donc ça c'est une conversion, donc c'est un changement. Quoi d'autre, Maëlle?
Se convertir. Convertir à Dieu.
Alors, ça veut dire quoi, se convertir à Dieu ?
Ça veut dire se tourner à Dieu.
Se tourner vers Dieu, revenir vers lui. C'est ce que vous alliez dire. Donc, effectivement, vous savez, Notre-Dame à Lourdes, elle nous appelle aussi à la conversion, comme... Quel était ce personnage vêtu d'une tunique en poil de chameau qui mange des sauterelles et qui appelle les gens à la conversion?
Saint Jean-Baptiste,
voilà, qui nous appelle à la conversion. Eh bien, c'est ce que fait le fils prodigue. Il a décidé, lui, d'aller loin de son père, c'est-à-dire loin de Dieu. Donc, du coup, il prend l'héritage, il s'en va, il se détourne, puis il décide de revenir vers Dieu. Et sur ce chemin de sa conversion qui le ramène à Dieu, voilà que Dieu le Père l'accueille avant même qu'il soit à la porte. Et voilà qu'il organise une fête. Mais il nous manque un personnage dans cette histoire.
Le grand frère,
voici ce qui arrive, ce que nous raconte Jésus, du grand frère, du frère aîné donc, celui qui est resté. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné, qu'est-ce qu'il pourrait faire le fils aîné ?
Tuer son petit frère.
Oh ben alors là vraiment.
Il en a vraiment marre celui-là.
Ah oui d'accord, mais enfin vous qui gardez tant de fois votre petit frère, je serais inquiet de vous le confier moi maintenant.
Mais non, vous inquiétez.
Ah bon non, je ne suis pas inquiet. Mais comment... Non, je sais bien, mais comment il aurait pu réagir en entendant les chants de la fête et en sachant que son frère perdu était retrouvé? Comment il aurait pu réagir? Milan, il aurait pu être heureux, oui, carré. Alors il aurait pu aussi être en colère parce qu'il était parti.
Il en a remarque parce qu'il
est en colère. Attendez.
Il est en colère parce qu'ils ont tué.
Alors il est en colère aussi parce qu'ils ont tué le veau gras, mais moi je vous dis comment il aurait pu réagir. Alors oui, alors il peut être jaloux aussi, mais finalement c'est ce qu'on va voir qu'il est finalement. Alors je vous lis la fin. Tout ça pour dire qu'il aurait pu effectivement se réjouir avec son père. Il aurait pu se dire, ah ben mon frère je l'aime aussi, il était parti, je suis quand même heureux qu'il revienne apparemment en bonne santé, je me réjouis avec mon père. Or ce n'est pas ainsi qu'il réagit. Le fils aîné se mit en colère, il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, parce que le père, il a envie que tous ses enfants soient rassemblés dans sa maison. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, synonyme de transgresser tes ordres. » Très bien, « sans jamais avoir désobéi. » Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Pourquoi est-ce que le père dit, ou plutôt comment est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Toujours dans la logique de l'héritage. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Oui.
Ça veut dire que vu que c'est son fils, tout ce qui est au père, il est aussi au fils.
Mais au fils aîné.
Oui.
Voyez que le père, il est juste, il n'est pas en train de dire « Maintenant que ton frère a eu 50% de la fortune, maintenant je vais diviser les 50% restants en deux. » Ah non, ça serait pas juste. Parce qu'il a divisé l'héritage équitablement. Et du coup, le père lui dit « Mais toi, tout ce qui est à moi est à toi. » Il n'est pas en train de dire qu'il va remettre en cause la justice de l'héritage. Mais il dit « En tant que père, mon cœur est à la fête de savoir qu'un de mes enfants perdus est retrouvé. » Eh bien, voyez-vous, dans notre vie chrétienne, certains peuvent se dire, moi je suis plutôt comme le fils aîné parce que j'ai toujours été un bon chrétien, je n'ai jamais vraiment abandonné le Seigneur. D'autres se disent, moi je peux être plutôt comme le fils prodigue parce que entre le catéchisme et maintenant où je suis revenu au Seigneur, il y a eu un grand temps où j'en ai pas eu grand chose à faire des choses de Dieu et du coup je suis plutôt le fils prodigue qui revient vers Dieu. Mais il faut savoir aussi que chacun, nous sommes les deux, parce que chaque fois que nous péchons, nous sommes comme le fils prodigue qui s'en va. Et quand nous recevons le sacrement de la confession, nous sommes le fils prodigue qui prend le chemin du retour et nous avons Dieu le Père qui nous accueille et nous couvre de baisers. En ayant reçu chacun l'absolution, c'est-à-dire le pardon de vos péchés, c'est comme si Dieu avait remis à votre doigt la bague pour bien rappeler que depuis le jour de votre baptême, vous êtes enfant de Dieu, mais également héritier de Dieu. D'où ma question maintenant. Quel est l'héritage que vous allez recevoir de Dieu? Puisque vous êtes enfant de Dieu, quel est cet héritage? Milan.
Le paradis, la vie éternelle.
C'est-à-dire que le jour de votre baptême, Dieu vous a promis, puisque vous êtes son enfant et son enfant bien-aimé, que du coup en héritage, vous aurez la vie éternelle. Eh bien, pour avoir cette vie éternelle en héritage, il faut régulièrement se confesser, c'est-à-dire petit à petit se convertir pour toujours se rapprocher davantage de Dieu. Est-ce que vous avez des questions sur cette parabole que nous entendrons demain à la messe? Timéo.
Le frère, pourquoi il n'est pas content puisque lui, il a toujours eu
Eh bien, parce que qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Nous avons vu le mot tout à l'heure.
Il est orgueilleux.
Alors il est orgueilleux.
Il est jaloux.
Très bien. C'est ça qu'il y a surtout dans ce cœur. Et nous aussi, parfois, on peut être orgueilleux ou jaloux de son frère ou de sa sœur, surtout quand le frère revient et qu'il est bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Eh bien, nous allons chacun maintenant, avant de le goûter, eh bien, prier pour que nous puissions toujours revenir vers Dieu, prier pour que tous les hommes de nos familles puissent revenir vers Dieu et prier aussi pour que dans nos familles, parfois il y a des divisions, des personnes, on ne se parle plus entre des fois frères et sœurs, eh bien, on va prier aussi pour que dans les familles, il y ait à nouveau eh bien, l'unité et la paix qui se mettent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous pouvons aller goûter.